Cours de philosophie éthique et l'éthique chrétienne par le Père Marie-Dominique Philippe le 12 février 1999 à Saint-Chaudard.
La béatitude des miséricordieux montre comment l'éthique sa relation personnelle avec les hommes, quelque chose de très nouveau. Au plan purement humain, le sommet de la relation avec puisque c'est Jésus, c'est le Père qui choisit le prochain que nous devons aimer comme Jésus l'aime, donc dans une charité toute divine, celle de la croix. On offre sa vie pour le prochain. C'est du reste pas très commode à bien préciser, mais il faut au moins saisir le problème. La charité fraternelle est commandée par une vertu théologale. La béatitude des miséricordieux est commandée par cette vertu théologale. Mais l'exercice de cette charité fraternelle, qui est une amitié divine, a un développement, une extension nouvelle avec la béatitude des miséricordieux. Oui, c'est tous les rapports entre les dons et les vertus théologales. Les vertus théologales, dans leur caractère spécifique, demeurent une exigence divine, une exigence qui passe par le cœur du Christ, qui est souveraine. Cette exigence possède, grâce au don de piété, un développement particulier sur une note de miséricorde. Elle a quelque chose de très spécial. Montrer note catholique universelle. Nous devons, dans le Christ, aimer tous les hommes. N'en exclure aucun. Tous les hommes sont capables d'être sauvés par Jésus. Tous les hommes sont capables d'être aimés d'une charité fraternelle, divine, comme Jésus les aime. La charité fraternelle du Christ se réalise dans son exercice selon un mode de miséricorde à l'égard des pécheurs. Puisque le grand mal, c'est le péché, ce n'est pas en premier lieu la misère sociale et la misère familiale, ni la misère terrestre. Ces misères-là existent, c'est bien évident, et elles continuent d'exister. Mais pour l'éthique chrétienne, il y a une misère plus profonde qui est celle du pécheur, qui est celle de celui qui refuse de reconnaître que Dieu existe, qui est celle de celui qui s'oppose directement à l'enseignement du Christ et qui est contre le Christ, antichrist. Toutes les philosophies antichrist avec leurs adeptes représentent le plus grand mal pour le chrétien. Donc c'est là où la miséricorde divine et chrétienne porte en premier lieu, plus encore que pour les misères biologiques, familiales, sociales. Et je crois que ça c'est très important de se le rappeler. Donc, avec la béatitude des miséricordieux, on doit tenir compte de cela en comprenant que cette béatitude des miséricordieux se fonde sur le précepte de charité fraternelle. Je dois aimer tous les hommes comme mes frères. En tant qu'ils sont rachetés par Jésus, ils sont sauvés par Jésus. Ils ne le sont peut-être pas maintenant, puisque ces hommes refusent de recevoir la grâce, puisque ces hommes tournent le dos à Jésus, puisque ces hommes sont ouvertement en opposition vis-à-vis de Jésus. Mais ils sont, tant qu'ils sont sur la terre, capables de recevoir la miséricorde du Christ, et que je dois être, moi, témoin de cette miséricorde à l'égard de ces pauvres, à l'égard de ces pécheurs. Il ne faut pas l'oublier. Je suis témoin du Christ, surtout comme religieux, puisque comme religieux, je considère que les béatitudes sont ceux qui dirigent ma vie, donc qui mettent une note spéciale à ma charité fraternelle. Ma charité fraternelle doit avoir ce caractère spécial que tous les chrétiens doivent respecter. Bienheureux les miséricordieux. Et comme la misère la plus grande, c'est se séparer de Dieu, c'est de se révolter contre le Christ. Il faut que vis-à-vis de cette misère la plus grande, je puisse être un témoin de la miséricorde du Christ. Il y a là quelque chose de très important, de ne pas nous laisser influencer par l'aspect psychologique, par l'aspect sociologique qui fait que les plus grandes misères sont les misères sociales, qui fait que les plus grandes misères sont les misères biologiques, des gens qui ne peuvent pas vivre. Les plus grandes misères restent pour un chrétien ceux qui refusent d'admettre l'existence de Dieu. Et je crois qu'on doit être très attentif à ça. Ce qui n'empêche pas que les misères sociales, que les misères biologiques s'imposent à nous. Quelquefois, comme les plus urgentes dans le temps, et pas dans notre cœur, pas dans notre intelligence. Je prends le cas de Mère Teresa, qui était en présence d'une misère sociale, d'une misère familiale terrible, qu'on mettait à la porte du moribond, et qui était à ce moment-là présent. Cette misère-là était présente à tous. Elle a voulu recevoir ceux qu'on rejetait parce qu'ils étaient moribonds, parce qu'ils étaient tout proches de la mort. Et c'était une misère urgente qui s'imposait à son cœur de chrétienne, de religieuse. Et elle voulait les aider tout de suite. Regardez immédiatement d'autres misères plus grandes, mais moins visibles, moins immédiatement urgentes. Et c'est ça qui est très délicat lorsqu'il s'agit de la miséricorde. C'est que la miséricorde regarde toujours les maux visibles, temporels, familiales, sociologique, et elle regarde les maux plus profonds, invisibles, de ceux qui refusent Dieu. Et on doit, dans une prudence chrétienne, voir ceux qui s'imposent immédiatement et ceux qui sont plus graves dans leur réalité profonde. Et il ne faut pas que les maux visibles nous fassent oublier les maux invisibles. Il ne faut pas que les maux invisibles nous fassent oublier les maux visibles immédiates. Il y a là un équilibre chrétien. Chaque vie chrétienne qui, je crois, est un problème typiquement d'éthique chrétienne. Vous voyez, l'évangile d'aujourd'hui, la misère sociale de ce jour muet. Jésus ne dit pas « Je suis venu pour pardonner les péchés » et je regarde en premier lieu l'orgueil des pharisiens. Il n'est pas ça. Mais dans sa conduite, et c'est là où il faut suivre Jésus, dans sa conduite d'envoyer du Père comme celui qui est le modèle pour nous de notre vie chrétienne, Jésus est là, tout entier présent pour cette misère sociale sourd-muet, pour cette misère sociale de celui qui est possédé par le démon, par un esprit mauvais, et qui vit dans ce cimetière. Et ce sont des païens. Et Jésus pourrait dire « Je suis envoyé en premier lieu pour la maison d'Israël. Il le fait, il le dit. Mais malgré ça, il y a un caractère universel de la croix qui est toujours maintenu dans la vie du Christ et qui doit être toujours maintenu dans la vie du chrétien. On ne peut pas être des spécialistes de la miséricorde. Je crois que ça revient à ça. La miséricorde a quelque chose de catholique et d'universel. Parce qu'elle regarde l'homme qu'il faut sauver. Or, l'homme implique les misères invisibles de l'âme, de l'intelligence, du cœur. Et l'homme porte les misères visibles de son corps, la maladie. Les misères visibles, il n'a plus de pain. Les misères visibles, il ne peut pas communiquer normalement avec les autres, il est sourd-muet. Il est possédé par un esprit impur. Et alors, quand je regarde l'évangile, je vois que Jésus met un ordre entre ces diverses misères, mais il n'en exclut aucune. Je dis ça parce que facilement on devient des spécialistes dans la miséricorde. Et devenir des spécialistes dans la miséricorde, c'est contraire à la miséricorde chrétienne. Jésus qui vient d'abord pour enseigner, Jésus n'est pas exclusif. C'est pour ça que je crois que tous ceux qui enseignent doivent avoir au moins un respect de la providence qui met auprès d'eux des misères visibles, sociales, familiales. C'est nécessaire pour ne pas être progressivement des spécialistes de la misère intellectuelle, de la misère spirituelle. On reste ouvert à toute espèce de misère. Et ça, c'est très caractéristique de la vie chrétienne. Et de maintenir l'ordre dans ces diverses misères, l'urgence d'une misère temporelle, la profondeur d'une misère spirituelle, et de garder là un ordre qui ne vient pas de nous, qui vient de Jésus. Et Jésus nous en montre, lui, dans son évangile, la manière dont il regarde cet ordre. Donc il y a là quelque chose de capital dans l'éthique chrétienne. Parce que l'éthique chrétienne est concrète et personnelle. L'éthique chrétienne voit la misère de l'homme dans la lumière du Christ crucifié. Jésus a porté toutes ses misères à la croix et nous montre que toutes ces misères sont la conséquence du péché originel, chassé du paradis terrestre, et que on ne peut pas vouloir rétablir un paradis terrestre. Et là, c'est la limite très profonde par rapport à la miséricorde temporelle. Nous ne devons pas chercher à supprimer ça que je dis, on ne doit pas être spécialiste de la miséricorde. Bienheureux les miséricordieux. Oh, la miséricorde, c'est être sensibilisé à la misère de l'homme. À toutes les misères de l'homme. Les misères d'ordre spirituel, en premier lieu. Les misères d'ordre surnaturel, en premier lieu. Et puis, les misères temporelles. Encore une fois, en n'en excluant aucune. Et comprendre là la vocation particulière de chaque chrétien, c'est à l'égard de la miséricorde. C'est à l'égard de la miséricorde, à l'égard des maux qu'il faut soulager. Que la vie chrétienne va s'organiser. Seront appelés par Jésus pour être plus portés à regarder ces misères temporelles ou ces misères spirituelles et surnaturelles. Et on doit répondre à cette vocation sans exclure le reste. Et c'est là où se posent les problèmes. Pour une vie apostolique, quels sont pour nous, pour chacun d'entre nous, l'ordre voulu par Dieu pour soulager ses misères? Et cela se pose tout le temps de manière différente, parce que les misères temporelles et spirituelles varie selon les époques. Et par le fait même, il y a un regard différent pour l'Église du Moyen-Âge que pour l'Église aujourd'hui. Imiter le Moyen-Âge, en cela, ce serait faux. Dans la recherche de la vérité, c'est autre chose, c'est au-dessus de la variété du temps. Tandis qu'au contraire, les misères sont liées à des époques. C'est ça qui est très important. Et dans l'Église, on voit très bien qu'il y a des modalités différentes d'organisation, d'ordre. Avant l'organisation, il y a l'ordre à l'égard de ces misères. L'Église qui est en Colombie, l'Église qui est aux États-Unis, l'Église qui est en France, l'Église qui est au Mexique, il y a un regard différent au point de vue de la sagesse et de la prudence. Est différent selon diverses églises. Ça, je crois qu'on doit être sensible à cela. Et on doit, par le fait même aussi, être très attentif de ne pas juger trop vite avec des a priori. Quand il s'agit du temporel, comprenons que ceux qui sont nés ce pays voit mieux les choses que celui qui n'est pas de ce pays, sauf si c'est un saint. Et comme la sainteté demeure toujours invisible sur la terre, l'Église n'aime pas qu'on proclame saint des vivants. Elle est même assez farouche là-dessus. Allez, c'est farouche. L'Église n'aime pas qu'on proclame saint des vivants. Même s'il y a des miracles, ça ne veut pas dire qu'ils sont saints. C'est charismatique. C'est pour l'utilité de leur vie apostolique. Mais au point de vue prudentiel, on peut comprendre qu'ils ont quand même une grâce particulière sur tel ou tel point. Et là, on touche un aspect extrêmement important pour nous, parce que ça implique une vision de l'Église. Et ça implique un ordre différent pour les différentes églises qui sont dans tel ou tel pays. Et qu'il est bien évident que notre jugement actuel n'est pas celui du début du siècle et n'est pas celui du siècle précédent. Même si ce saint existe, a été proclamé par l'Église saint, je n'ai pas nécessairement à copier. C'est l'esprit et non pas les conclusions immédiates, prudentielles. Quand on confond ça, on fait très graves erreurs. Et comme pour Thomas d'Aquin, c'est l'esprit du théologien Thomas et non pas toutes les conclusions théologiques. Il faut discerner, il faut être intelligent pour nos saints. Autrement, on leur fait faire des choses qui sont complètement fausses. C'est très très important ça. Et ça, c'est la doctrine de l'Église. De respecter les sagesses acquises selon les dispositions diverses. Diverses traditions. Mais il y a quelque chose qui ne bouge pas. C'est la révélation de la parole de Dieu. C'est le mystère du Christ. C'est le mystère de l'Église. Au niveau du regard prudentiel, au niveau du regard du théologien. Mais dans la pratique, dans l'exercice pratique, faisons attention, n'imitons pas matériellement, au nom de Saint Jean Bosco, on dira, on fera telle ou telle chose que lui a fait, et on imitera ses actes, matériellement. Et là, on fait de très graves erreurs, à ce moment-là. Parce que les circonstances providentielles ne sont plus les mêmes. Alors ne disons pas que ça reste vrai, parce qu'un saint l'a fait. N'est imitable que le Christ nous est donné. Et la Vierge Marie, comme elle est extrêmement cachée, et pour cause, c'est avant tout un esprit, Marie. Et cet esprit, je crois, nous est donné à travers Saint Jean. À travers une doctrine. facilité au parallèle. Voilà pour cette béatitude des miséricordieux qui a ce caractère tout à fait particulier, que cette béatitude s'incarne dans notre sensibilité. La miséricorde, c'est être sensible au mal des autres. C'est être sensible à ce mal des autres d'une manière divine. C'est-à-dire qu'on vit avec les autres de leur misère. Et troisièmement, on fait tout ce qu'on peut pour soulager cette misère, pour la réfréner, la supprimer. Et c'est toujours ces trois aspects qui sont présents dans tout acte de miséricorde. On doit soulager le misérable, le pauvre, l'indigent. On ne peut pas être miséricordieux de manière purement intérieure. On doit être miséricordieux en payant de sa propre personne et en réalisant concrètement des gestes de miséricorde. En se rappelant que la miséricorde est toujours des liens personnels et que si on organise quelque chose, il faut que cette organisation ne supprime pas les liens personnels. Dès que l'organisation supprime les liens personnels dans la miséricorde, elle tue la miséricorde. La miséricorde n'est pas universelle, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'absolution générale, collective. Il faut nous rappeler que la miséricorde est toujours œuvre personnelle. Alors ça peut prendre des modalités différentes, mais le lien personnel doit toujours rester. Le chemin d'existence, mais nous le retrouvons là. C'est le pauvre que nous regardons. Et ce n'est pas la misère. La misère du cancer, c'est très bien. Mais le chrétien regarde les pauvres. Ça, c'est la béatitude des pauvres. Que l'aspect social généralise, universalise, bon, pour être plus efficace, très bien. Mais ça se termine toujours dans un regard personnel. C'est ça la béatitude des pauvres. Alors, à partir de là, on peut comprendre comment cette béatitude, comment la charité fraternelle, qui est personnelle, va transformer dans notre vie ce que représente l'amour d'amitié, ce que représente la justice.